voix nue. Toute cette semaine, Raphaël Bourgois rencontre Laurence Parisot. Ce soir, l'entreprise, une affaire de famille.
Bonsoir Laurence Parisot.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir dans votre bureau à l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, dont vous avez pris la présidence en 1990. Vous aviez alors à peine 30 ans, un institut que vous venez de céder à la famille d'Entresangles afin d'assurer la transition vers le numérique, transition nécessaire évidemment aujourd'hui. On rappellera évidemment votre passage à la tête du MEDEF. Vous avez été la patronne des patrons de 2005 à 2013. Vous êtes née Laurence Parisot en Haute-Saône, dans une famille de grands industriels. Votre grand-père Jacques, votre père Michel et vos oncles ont créé et développé une entreprise de meubles importante en France, devenue au début des années 2000 le groupe Parisot. Au cours de ces entretiens, nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur votre parcours, les années de formation, le goût pour la politique, la conquête, puis la direction du syndicat des patrons. On tentera d'en savoir un peu plus sur vous, sur le regard que vous portez aujourd'hui sur ce parcours, car si vous êtes une personne publique, Laurence Parisot, vous êtes finalement assez peu connue, peut-être parce que, si vous me permettez ce jeu de mots un peu facile, vous êtes assez insondable comme personne. Mais tout d'abord, Laurence Parisot, peut-être faut-il commencer par évoquer votre enfance, donc à Saint-Loup-sur-Semouse. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombée dans l'entreprise étant toute petite ?
Sans aucun doute. J'ai été un peu comme Obélix dans la marmite de la potion magique, de l'entreprise, de l'esprit d'entreprise, de la conquête, de l'envie de fabriquer, de construire, de vendre aussi. Mais je suis tombée aussi, en étant née à Saint-Loup-sur-Semouse, dans la France d'une certaine époque. Une France qui se pensait encore glorieuse et pleine d'avenir. Et même si c'était une France relativement rurale, au pied des Vosges, petit village, c'était une France vraiment pleine d'espoir, très confiante en elle-même. Et c'est ces deux choses-là, la France profonde mais pleine d'espérance et l'esprit d'entreprise qui certainement caractérise ce qui a marqué mon enfance.
Est-ce qu'il y avait une culture patronale particulière, vous diriez, dans votre famille, Laurence Parisot ? Est-ce que ça vous a inculqué une certaine vision de ce que c'était que d'être un patron ?
Alors, c'est très étrange parce que cette expression « culture patronale », je n'aurais jamais pensé à l'utiliser pour définir mon enfance et mon adolescence aussi, d'ailleurs, là-bas. J'étais la petite fille et la fille du patron à l'école quand la maîtresse demandait à chaque enfant où travaillent tes parents. La plupart de mes camarades répondaient « mes parents travaillent chez Parisot ». Et moi, je répondais « mon père travaille chez Parisot ». Et donc, je n'avais pas le sentiment de faire partie d'un monde culturel ou de références différentes de mes copains ou copines de classe. Et par conséquent, je savais que j'avais un statut peut-être différent, peut-être que le regard des autres était sensiblement particulier, mais pour autant, je n'avais pas le sentiment de vivre dans un monde et de façon différente des autres. Pour vous dire les choses, très petite, mon plus grand plaisir, c'était quand ma mère me préparait un casse-croûte, qu'elle me mettait dans un petit sac à dos, et quand je pouvais aller partager le saucisson et le pain avec les ouvriers dans l'atelier. C'était vraiment un moment de bonheur total, donc je n'étais pas dans une logique, comme vous dites, de culture patronale.
Si je vous pose la question, Laurence Parisot, c'est parce qu'il y a, j'ai pu lire que la maison familiale était au cœur de l'usine. Et c'est vrai que symboliquement, c'est assez fort d'habiter ce lieu de travail.
Oui, ce cœur de l'usine, on peut dire, voilà, le patron était là comme pour tout contrôler. On ne vivait pas ça comme ça. C'était plutôt la maison du patron est là parce que il fait partie de l'équipe, parce qu'il est en permanence avec tout le monde dans l'entreprise, avec tous les salariés et tous les ouvriers. Peut-être que ce que je vous dis là est une reconstitution idéalisée du passé, de mon enfance, mais peut-être pas non plus. Moi, je me souviens de l'attachement incroyable des salariés de l'usine à mon père. Et quand mon père...
Qui n'était pas pourtant un patron facile.
Ah, oui, dans le sens où il était exigeant, il était ferme, mais il était solidaire. Si quelqu'un était en difficulté pour une raison ou pour une autre, il savait absolument l'aider, et même sur des choses qui pouvaient être très personnelles. Et il était clair, direct, généreux, profondément généreux. Alors, peut-être que certains analyseraient ça comme du paternalisme typique encore de cette époque-là, qui était encore un paternalisme différent de celui d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était surtout, je crois, inscrit dans cet élan de reconstruction qui a caractérisé la France de l'après-guerre et qui s'est prolongé par le développement des Trente Glorieuses. C'était un moment de beaucoup d'espoir pour tout le monde, encore une fois.
Est-ce que c'est pas aussi la marque, Laurence Parisot, de ce qu'on a pu appeler le capitalisme familial à la française, dont on a regretté, on se souvient d'un ancien président, Nicolas Sarkozy, regrettant, disant préférer le capitalisme familial, en opposition évidemment au capitalisme financier, jugé, on va dire, sans histoire, sans culture, sans sentiment presque.
Oui, c'est la marque du capitalisme familial de cette époque, parce que le capitalisme familial existe toujours et a certainement une façon de se déployer différente de celle des années 60 et 70. C'est un capitalisme d'abord qui a été bâti par des personnes issues de la classe moyenne. Mon grand-père, qui a fondé l'entreprise, était... fils de professeur, d'enseignant. En tout cas, il n'était pas issu d'une famille d'entrepreneurs ni d'une famille très aisée. Et il a pu bâtir sa propre entreprise d'une manière très modeste, d'abord comme un artisan. Et puis, après la guerre, il a su donner une autre dimension, beaucoup avec l'apport de mon père, qui lui-même n'avait pas cherché à aller jusqu'au bout de sa scolarité et n'avait pas son bac non plus. Mais c'est caractéristique de ce moment dans la vie de la France où on se dit qu'il suffit de travailler beaucoup, d'avoir un petit temps d'avance sur d'autres phénomènes de société et le travail paiera. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a beau s'investir beaucoup quand on est une petite entreprise, on a beau avoir des équipes formidables, ce n'est pas toujours facile d'obtenir des résultats. Je crois que ça participe beaucoup de cette désillusion qui traverse notre pays aujourd'hui par rapport à la joie de vivre des années 60.
Alors votre enfance, vous la passez, on peut le dire, dans un milieu d'hommes. Vous avez parlé de votre grand-père, de votre père. Il y a vos oncles aussi qui sont très présents, mais il y a des femmes aussi. Laurence Parisot, votre mère, évidemment, votre grand-mère, chez qui la famille se retrouve au petit déjeuner pour discuter. C'est un moment... qu'on ne peut pas rater, c'est aussi ce moment où le père, les grands-pères et les oncles discutent des affaires de l'entreprise.
Oui, tout à fait. Alors, il y avait deux moments distincts. Le petit déjeuner où mon père retrouvait son père, mon grand-père, mais aussi mon père retrouvait ses frères, mes oncles. Et il y avait ce petit déjeuner chez ma grand-mère tous les matins, avant que chacun d'entre eux parte travailler à l'usine, comme on disait. À l'époque, on ne disait pas « on va travailler à l'entreprise, on va au bureau ». Non, c'est « on va à l'usine ». Mais il y avait un deuxième moment qui, lui, se passait chez ma mère, chez mes parents, qui était après le déjeuner, où à nouveau tout le monde se retrouvait pour prendre un café avant de retourner à l'usine. C'est dire à quel point... la famille et le travail n'étaient pas séparés. C'est dire aussi à quel point les liens à l'intérieur de la famille étaient incroyablement étroits, incroyablement solides et profonds. Ce qui, je le dis pour peut-être la suite de l'émission, ce qui fait que quand plus tard, des décennies après, la famille se déchire autour de la question de l'avenir de l'usine, ce déchirement est d'une violence et provoque des douleurs inouïes. Et c'est peut-être aussi une des caractéristiques du capitalisme familial. Il peut être très heureux et porteur de succès magnifiques, mais il peut aussi basculer vers l'échec et le chagrin.
J'anticipe moi aussi un petit peu, Laurence Parisot, ce que vous dites ne peut que me faire penser à ce slogan que vous avez porté, l'entreprise, c'est la vie. À vous écouter, on voit très très bien d'où il vient ce slogan, c'est une expérience personnelle.
Certainement. Cette phrase que j'ai lancée quand j'ai cherché à conquérir le MEDEF et qui ensuite, une fois que j'ai été à la tête du MEDEF, est restée comme un slogan, une permanence, comme un signe de rassemblement de tous les entrepreneurs. Cette phrase, elle veut dire à la fois l'entreprise apporte beaucoup, c'est du travail, des revenus, des salaires, mais aussi le plaisir de créer, le plaisir d'élaborer, le plaisir d'être dans une équipe. Et ça, c'est vraiment la vie, avec des aventures et des espoirs aussi, parce qu'on ne gagne pas tout le temps. Mais c'est la vie, ça veut dire aussi que, attention, la vie a malheureusement une fin. Ça veut dire que l'entreprise est mortelle. Elle n'est pas malheureusement amenée à durer de manière éternelle. Elle court des risques qui peuvent, à un moment ou à un autre, la faire tomber. Alors, elle peut tomber parce qu'il y a un déchirement chez les actionnaires, et notamment quand les actionnaires sont les membres d'une même famille, il peut y avoir d'autres types de risques liés aux évolutions des marchés.
Laurence Parisot, il faut parler de votre père tout de même, Michel, qui a été pour vous évidemment très important, un modèle, on peut dire un mentor.
Ah oui, certainement un mentor, mais plus que ça.
C'est difficile quand on parle de son père de simplement dire un mentor.
Exactement. Le mentor est celui qui vous apprend, qui vous guide, qui vous donne des pistes, qui est là pour répondre à vos questions face à des doutes ou à tout simplement un manque de connaissances. Mais il était un modèle de droiture, un sens du devoir le caractérisait tout à fait étonnant. Et je trouve une conscience de ses responsabilités comme on n'en voit plus aujourd'hui, tant de ses responsabilités vis-à-vis de l'entreprise et de chaque personne dans l'entreprise, responsabilité vis-à-vis de ses frères et de l'ensemble de sa famille, responsabilité vis-à-vis de sa famille très proche, c'est-à-dire ma mère et ma sœur et moi-même. C'est un homme vraiment avec des valeurs morales très très fortes et en même temps pas du tout pour autant un homme raide, coincé, pas du tout. C'était un anticonformiste, c'était un homme qui recherchait l'innovation, la créativité, qui était curieux de tout et qui nous a fait vivre des moments exceptionnels, notamment parce qu'il adorait les voyages. Et on a très vite, je pense que mon premier voyage, j'avais même pas un an, et on a énormément voyagé grâce à mon père. J'ai découvert le monde à une époque où les Français n'avaient pas autant de facilité qu'aujourd'hui pour aller visiter les pays de la planète.
Il vous a aussi transmis le goût des voitures, le goût de la vitesse, le goût de l'art, peut-être le goût de la collection.
Il aimait beaucoup la peinture parce qu'il avait fait l'école Boulle. Il faut savoir qu'à l'origine, il ne voulait pas rentrer dans l'usine fondée par son père. Il souhaitait être décorateur de théâtre. Et il avait d'ailleurs énormément fréquenté les théâtres et vu beaucoup, beaucoup de spectacles et d'artistes. Donc il aimait effectivement la culture, il était sensible aux questions esthétiques.
Et vous, alors, Laurence Parizeau ?
Alors, moi, j'ai...
Parce qu'on est dans votre bureau à l'IFOP, il y a derrière moi une toile d'un street artiste, me semble-t-il.
C'est un grand street artiste qui s'appelle Quick. C'est un Américain, mais qui travaille beaucoup en France. Moi, j'ai été sensible à la beauté très tôt, grâce à cet environnement un peu artistique créé par mon grand-père et mon père. Mais j'ai eu des goûts... j'ai toujours un goût sans limite pour le monde du surréalisme. Un monde d'originalité, un monde de liberté, de penser comme je trouve qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et j'ai adoré ça. De transgression aussi, parce que je trouve que c'est bien de rester dans la norme. Enfin, quand même, il faut bien aller un petit peu au-delà, parce qu'autrement, c'est pas rigolo, la vie. Et c'est ça que j'ai adoré. Et le street artiste, c'est aussi un peu la transgression.
Alors, Laurence Parizeau, revenons à votre enfance, plutôt à la fin de votre adolescence. Vous êtes une plutôt bonne élève et donc vous allez, après le bac, à Nancy, faire des études de droit et vous intégrer le Centre universitaire d'études politiques, le CUEP. Qu'est-ce qui vous attire à ce moment-là vers la politique ? Est-ce que c'est un intérêt ancien pour l'actualité, un goût qui vous accompagne depuis longtemps ?
Oui, j'ai adoré très tôt suivre l'actualité, et notamment l'actualité politique, qu'elle soit nationale ou internationale. C'est évidemment lié au fait que dans ma famille, on parlait politique constamment. Et ma mère en particulier était très sensible et très subtile sur ces questions-là. Ma mère avait été très marquée par tout ce qui s'était passé avant la guerre et qui a été à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour elle, il était sain et même nécessaire de penser constamment la chose publique pour s'assurer que le pire ne pourra plus jamais revenir. Donc c'était tout à fait normal de participer au débat politique. Et très tôt, je me souviens qu'un de mes grands plaisirs, quand j'étais petite, mais vraiment, je dirais à l'âge de 10 ans, quelque chose comme ça, c'était m'enfermer dans ma chambre avec une radio et écouter les émissions politiques à la radio. Donc, quand je passe mon bac, je suis à la recherche de quelque chose qui se rapproche de ça. Le droit n'est pas très éloigné de la chose politique, et notamment le droit public, puisque je pars vers le droit public. Et à ce moment-là, il y avait à Nancy un institut très particulier, unique, qui s'appelait le CUEP, Centre universitaire d'études politiques. Et si vous faisiez le CUEP en même temps que vos années de droit, vous pouviez rentrer directement à Sciences Po. Et c'était ça l'objectif, rentrer à Sciences Po.
Il y a, Laurence Parizeau, je crois, une citation de René Char que vous aimez beaucoup. « Les vrais, les purs bâtisseurs haïssent la léthargie des forteresses. »
Alors, c'est une citation que mon père, Michel, adorait et il l'avait inscrite sur son papier à lettres.
C'est ce qui vous amène à bouger, finalement, à aller faire ses études à Nancy, à Paris, à quitter le cocon familial où vous êtes quand même, on va dire, bien, j'allais dire enchaîné, c'est peut-être pas le bon terme, mais bien ancré à cette époque-là.
Eh bien, votre hésitation entre enchaîné et ancré est très intéressante parce que j'étais ancrée et j'adorais ma famille, j'adorais Saint-Loup-sur-Semouse, mais j'avais aussi, peut-être que je ne l'aurais pas dit comme cela à l'époque, inconsciemment le sentiment d'être un peu prisonnière. Et il fallait gagner sa propre liberté, et même si il y avait des personnes dans ma famille, certains de mes oncles et mon grand-père, qui voulaient que je fasse comme ils l'avaient tous fait après le bac, on rentre à l'usine et vous avez une carrière toute tracée. Non, il fallait que j'essaye autre chose, très encouragée par ma mère d'ailleurs, qui, elle, savait bien que l'avenir ne pouvait pas se construire à Saint-Loup-sur-Semouse en Haute-Saône.
Et donc, vous prenez vos bagages et vous allez à Paris après le QEP, donc qui vous permet d'arriver à Sciences Po. Là, vous arrivez à Paris un peu, si vous me passez l'expression, comme une Rastignac, une provinciale qui découvre ce milieu-là.
Ah, c'était affreux. J'ai souffert énormément. J'étais vraiment très provinciale. Il y avait une aisance et une rapidité parisienne dans les conversations, dans les références, dans ce qu'il fallait faire, ne pas faire, qui me dépassait complètement et que, en plus, je n'aimais pas car je trouvais que c'était relativement superficiel. Moi, j'aimais bien les choses plus profondes et donc je n'ai pas été à l'aise du tout pendant un certain temps. Et en même temps, j'aimais beaucoup Sciences Po. J'ai adoré les cours, j'ai adoré ce que j'y ai appris, les profs, mais avec quand même quelques souffrances.
Vous y faites une rencontre importante, celle d'Alain Lancelot, qui est alors le patron du CVPOF, le Centre d'études de la vie politique française à Sciences Po. Et c'est avec lui que vous allez faire votre DEA, puis ensuite vous serez son assistante. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Qu'est-ce qu'il vous a apporté, Laurence Parisot, Alain Lancelot?
Ce qui a été formidable, c'est que Alain Lancelot a vu que derrière ma timidité, ma réserve, j'avais certainement une envie de faire beaucoup de choses dans son domaine, la science politique. Et donc, il m'a mis sur les rails qu'il convenait pour que je puisse travailler, y compris pour lui, des dossiers tout à fait passionnants de politologie pure. Et là, à partir du moment où j'étais dans un rapport plus de travail et un rapport très intellectuel et non pas un rapport mondain, comme ce que je ressentais beaucoup chez mes camarades à Sciences Po, à partir du moment où j'étais dans ce rapport de travail, là, j'ai été beaucoup plus à l'aise. Et donc, une amitié, en plus, s'est construite. Et Alain Lancelot était à la fois un grand politologue, un homme clé à Sciences Po à l'époque, et quelqu'un qui connaissait aussi le monde de l'entreprise, parce qu'il avait toujours donné des conseils auprès de différents très grands chefs d'entreprise français. Alors c'est pour ça aussi peut-être que le lien a pu se créer relativement facilement et de manière durable. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup.
Vous l'avez dit, Sciences Po, c'est un lieu mondain. Est-ce que vous gardez aussi des relations? C'est un moment pour vous où vous faites des relations qui, j'allais dire, qui vous serviront plus tard, mais en tout cas, voilà, qui vous suivront toute votre vie, Laurence Parisot.
Alors, c'était mondain et puis c'était un style. Hein. À l'époque, Sciences Po, c'était beaucoup l'Oden vert pour les jeunes filles et foulard qui déborde d'un chemisier blanc. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, je venais à Sciences Po avec presque tous les jours des bottes de cow-boy. Et sous le bras, je n'avais pas le monde, mais l'équipe. Donc, j'étais dans autre chose. Pour revenir aux rencontres à Sciences Po, j'ai des rencontres qui restent marquantes hein, à Sciences Po. C'est à Sciences Po que je vois pour la première fois Nicolas Sarkozy. Nous sommes dans la même conférence. Ça s'appelait des conférences, hein, les classes à l'époque. C'est à Sciences Po que je rencontre Ruth Elkrief, avec qui, évidemment, j'ai toujours des relations très pleines d'amitié. Et d'autres encore, Constance Le Gris, qui est députée européenne aujourd'hui. Tout ça, ce sont des relations de cette époque. Mais ce n'est pas une bande, ça n'a rien à voir avec ce qu'est la promotion Voltaire chez les énarques de cette année-là. Je ne suis pas restée avec tous ces gens-là, voilà, tout au long de la vie qui a suivi. Je suis plus mobile que ça dans tous les domaines.
Et est-ce que vous avez à l'époque une tentation pour la politique? Vous avez été l'assistante parlementaire du député Jacques Barrot, député UDF, à l'époque.
Oui.
Est-ce que vous avez une tentation du politique, Laurence Parisot?
Eh bien, pas vraiment. J'ai eu une très forte tentation du journalisme politique. Mais quand j'ai été assistante parlementaire de Jacques Barrot, ça a duré très peu de temps, car même si j'avais beaucoup d'estime et d'admiration pour Jacques Barrot, qui était un homme très mesuré et très très compétent sur beaucoup de dossiers, j'ai tout de suite vu toutes les dégueulasseries du monde politique. Et donc, je n'ai pas aimé ça. Entre parenthèses, je ne suis pas rentrée non plus dans le journalisme parce que j'ai très vite soupçonné aussi les attitudes parfois très tordues de ce monde des médias.
Que vous ne retrouvez pas dans le monde de l'entreprise ?
Ah non, beaucoup moins. Il y en a. Oh là là, il y a des perversités, il y a des salopards, il y a tout ce que vous voulez. Mais l'entreprise a ceci de très particulier qu'elle se fonde sur des chiffres et l'obligation de gagner de l'argent. Si l'entreprise ne gagne pas d'argent, elle disparaît. Et donc vous avez toujours, à la fin de la semaine, à la fin du mois, votre compte d'exploitation, votre carnet de commandes qui est le juge de paix. En politique, vous n'avez pas ça, sauf tous les 5 ans, la sanction par l'élection. Mais au quotidien, ce n'est pas ça. Et dans le monde du journalisme, ça peut être tout à fait formidable, exceptionnel même, avec des déontologies très fortes. Mais ça peut être aussi le reflet de ce qui ne va pas dans le monde politique, notamment dans certaines formes de journalisme politique. Donc tout ça fait que je n'ai pas voulu, je n'ai pas osé, ou ça m'a déplu.
Il sera intéressant d'entendre dans une prochaine émission comment vous avez vécu votre passage au MEDEF, parce que ce monde impitoyable, vous le rencontrez à ce moment-là.
C'est
Laurence
vrai.
Parisot, une toute dernière question. Qu'est-ce qui, finalement, à l'issue de cette formation, qu'est-ce qui vous motive, vous pensez ? Est-ce que c'est aussi une certaine idée de renverser la table, une antipathie pour un système un peu sclérosé ? À plusieurs reprises, lors de ce premier entretien, on a entendu dans vos propos cette espèce de sentiment qu'il y a des choses établies et qu'il est bon de prendre des chemins de traverse et même de renverser la table. Et on n'a pas encore parlé d'une chose, c'est que ce système, c'est aussi un plafond de verre pour les femmes. Et c'est quelque chose peut-être aussi qui vous motive, Laurence Parisot.
Alors, sur toutes ces période de mon enfance, mon adolescence et le début de ma vie d'adulte, et jusqu'à aujourd'hui, ce qui me motive au plus profond de moi-même, c'est une forme de patriotisme intense, constamment présent et même obnubilant. Depuis toute petite, ce qu'est la France, son devenir, occupe mon esprit. Et je veux que la France aille bien. Aujourd'hui, je dirais, je veux qu'elle aille mieux, mais dès mon plus jeune âge, je voulais que la France aille bien. La question du féminisme, par exemple, et du plafond de verre, c'est une question qui est arrivée beaucoup plus tard chez moi. Je n'étais pas consciente du problème quand j'avais 20 ans.
Eh bien écoutez, on en parlera dans une prochaine émission, donc Laurence Parisot, puisqu'à la fin de vos études, Alain Lancelot vous fera rencontrer Pierre Veil, qui dirige alors la Sofresse. C'est votre rencontre, on va dire aussi, avec cette question de l'opinion publique, de la façon de mesurer l'opinion publique. On en parle dans le prochain épisode. Merci Laurence Parisot.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Laurence Parisot. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Marie-Laure Ciboulet, coordination Belle Indola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.